Vous écoutez, on lit pour vous.
Gérer comme une Augustine, un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 29 décembre 2023 dans la presse. Il y a 8 ans, le monastère des Augustines a modifié sa vocation. L'entreprise hôtelière est désormais aux prises avec les mêmes préoccupations que celles œuvrant dans le même créneau, pénurie de main-d'œuvre, inflation. Mais dans cet endroit hors du commun, on s'inspire de la philosophie des Augustines pour gérer les affaires et les gens. Les Augustines sont considérées comme une des premières communautés de femmes entrepreneurs au pays, lance Isabelle Duchesneau, directrice générale du monastère des Augustines. Elles ont fondé, bâti, géré les hôpitaux, poursuit-elle. Elles faisaient tout. Il y a 10 années, les Augustines ont entrepris la transformation de leur immense monastère du Vieux-Québec. Elles voulaient assurer la pérennité des lieux parce que le groupe déclinait et la relève se faisait rare. La réflexion sur la conservation de leur patrimoine, précurseur à ce changement, avait duré plus de 20 ans. Elles se sont posé la question, poursuit la directrice générale, « Qu'est-ce qu'on fait ?» avec ce patrimoine de près de 400 ans? Les sœurs n'ont jamais réfléchi en silo. Leur objectif est de s'installer dans une communauté, la faire prospérer, en prendre soin. Elles prennent soin de l'individu, mais elles prennent soin du collectif, observe Isabelle Duchesneau. Un modèle innovant. Avant de décider de la suite des choses, les sœurs ont commandé des études, des ateliers, des consultations pour comprendre comment elles pouvaient continuer de servir la communauté autrement et éventuellement sans elles. Cela a mené à la création de 2 organismes en 2009, un OBNL, le monastère des Augustines, et une fiducie dont le mandat est de protéger le patrimoine des Augustines, dont cet incroyable monastère, ses artefacts et ses archives. La fiducie, propriétaire du bâtiment, s'occupe de son entretien. Elle est aussi la gardienne des intentions des Augustines. Elles se sont assurées que tout ce qui allait se faire au monastère éventuellement serait fait avec l'intention de protéger leur mémoire, précise Isabelle Duchesneau. C'est dans la Constitution. C'est à vie. Isabelle Duchesneau est au monastère depuis 2012, au début de la conversion. Son rôle, mettre en place un modèle d'affaires pour cette entreprise atypique, qui avait des intentions très claires. Les sœurs nous ont légué leur patrimoine matériel et immatériel. Et dans le patrimoine immatériel, il y a leur façon de gérer. C'est extraordinaire d'aller piger là-dedans, dit Isabelle Duchesneau. Le monastère est reconnu comme un modèle d'affaires innovant, particulièrement dans le monde de l'économie sociale. On voit souvent les OBNL comme étant des organismes uniquement subventionnés, souligne Isabelle Duchesneau. Or, ce n'est pas le cas ici, puisque 80% des ressources proviennent des revenus autonomes, dont la plus grande partie vient des chambres. Une autre part de 15% provient de fonds publics, particulièrement sur des projets précis, et les 5% restants de fonds philanthropiques. Cela exclut les investissements publics nécessaires à la transformation au tout début du projet. Prendre soin. Un contexte difficile. Le créneau du tourisme de santé globale et bien-être a été choisi pour cadrer avec la philosophie des Augustines, mais il tombait aussi au bon moment. Ce qu'on appelle en anglais le tourisme du wellness est en plein essor. Le monastère a bâti sa culture d'entreprise afin de poursuivre les valeurs des sœurs, maintenant et le jour où il n'y en aura plus au monastère. Le défi sera de passer cette philosophie aux générations futures. Les gens voyagent pour être mieux. Ils incluent des traitements ou du mouvement dans leurs vacances. On veut se ressourcer. L'environnement des Augustines propose exactement ça. Dès le départ, c'était indéniable pour moi que le monastère avait le potentiel d'un rayonnement international, dit Isabelle Duchesneau. En 2020, le monastère a atteint son équilibre budgétaire, explique la directrice générale. Et malgré la pandémie, qui a fait mal au secteur de l'hôtellerie, les années suivantes, 2021 et 2022, ont permis de dégager des surplus. Cette année, les choses sont différentes. L'inflation rattrape le monastère, même pour un créneau de bien-être. Le taux d'occupation se maintient, autour de 70%, mais les dépenses ne suivent pas. Les gens choisissent des chambres moins chères et achètent moins à la boutique, explique la directrice, qui travaille sur une révision du plan d'affaires. La mission demeure le bien-être, celui qui commence par soi. En ce sens, les Augustines étaient des précurseurs. Elles vivaient le moment présent bien avant que le discours soit récupéré par l'industrie du mieux-être. Aujourd'hui, cette mission est toujours remplie, notamment en permettant à une certaine clientèle de trouver un répit au monastère qui offre un tarif solidaire aux proches aidants, aux soignants ou aux gens qui doivent aller à Québec pour accompagner un malade. Les surplus des dernières années ont été redistribués pour ces programmes sociaux. Les sœurs ont fait ça dans le passé. Pour gérer leurs hôpitaux, elles offraient aux richissimes de la vraie vaisselle, de la coutellerie de luxe, rappelle Isabelle Duchesneau. Elles les mettaient dans des chambres privées payantes. Avec cet argent, elles accueillaient les plus pauvres gratuitement. Et la religion? La religion est expérimentée dans un volet historique, dit Isabelle Duchesneau. On ne retrouve pas des Bouddhas au monastère. On va retrouver des statues de la Vierge et de Jésus. C'est notre patrimoine. C'est notre histoire collective. Mais on ne prône pas la religion. On prône la spiritualité au sens large. C'était « Gérer comme une Augustine », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 29 décembre 2023 dans La Presse.
Louise Lapierre, pas à pas. Un texte de Joanne Mercier, paru dans le magazine Virage, hiver 2024. L'école Louise Lapierre danse célèbre cette année son 50e anniversaire. Le chemin emprunté par sa fondatrice, qui fut professeure, danseuse, chorégraphe et femme d'affaires, est aussi impressionnant que sa destination. C'est une époque où le téléviseur trône au salon comme un symbole de progrès. Et sur le petit, tout petit écran, des ballerines font des arabesques et des pas de deux. Louise Lapierre en a des picotements dans les jambes, mais elle doit être patiente. Son père ne l'autorise à danser que durant les pauses publicitaires. Et là, celle qui rêve déjà à 6 ans, d'être une grande danseuse aux longs cheveux, se donne une allure de diva en s'improvisant une crinière avec un pantalon de pyjama. On lui aurait dit qu'une école de danse portant son nom formerait des milliers de danseuses et de danseurs, qu'elle-même, comme professeur, permettrait au corps de se délier, se cabrer, s'éclater. L'aurait-elle cru? Enfant hyperactive, dont le rêve avoué est de devenir une vedette, Louise appelle un jour à la station de télévision Télémétropole et offre d'aller danser gratuitement à l'une de ses émissions. Autre idée empreinte d'une belle naïveté, en short et en gougoune, elle se rend à l'école de la fondatrice des grands ballets canadiens, Ludmila Chiriaev, pour lui demander en vain de la prendre sous son aile. Elle a 10 ans. Un petit local, puis un grand. En attendant d'être enfin reconnue à sa juste valeur, l'adolescente s'initie à la danse folklorique et à la gymnastique rythmique, et plus tard, au ballet jazz, sans trop savoir que s'y cache la clé de ses succès en devenir. À l'université, un baccalauréat en éducation physique, avec une spécialisation danse, l'éveille à la science du corps et du mouvement. Révélation! Si elle enseigne le jour dans une école secondaire, Elle s'éclate le soir en donnant des cours de mouvement expressif ou encore en performant pour plusieurs compagnies de danse. À la suggestion de ses élèves, Louise loue un petit local à l'extérieur de l'école et, de bouche à oreille, ou plutôt de bras en bras et de jambe en jambe, le mot circule et résonne très fort. C'est ainsi qu'en 1973 naît, tout naturellement, l'école de danse Louise Lapierre. De petit, son local devient trop petit. Un plus grand espace, situé au 1460 rue Mont-Royal, retient maintenant son attention. Le lieu se remet à peine d'un incendie et de nombreuses colonnes mises à nu s'avéreraient pour quiconque un frein à la location. Mais c'est mal connaître Louise Lapierre. Elle a le coup de foudre et, en un coup d'œil, voit l'utilité des fameuses colonnes. Elles seront les divisions de ses futurs studios. Aussi clairement qu'à l'âge de 6 ans, Louise Lapierre sait que la danse sera sa vie et que ce local en sera le théâtre. La jeune femme de 24 ans voudrait bien signer un bail là, tout de suite, mais le propriétaire a une exigence envers la jeune locataire, que son père soit là. Pas de problème. Si papa accepte volontiers, maman n'est pas en reste. Pendant les travaux d'aménagement, les inscriptions aux cours se font dans le salon familial. Il y a de ces histoires qui ont le sens du punch. Louise Lapierre paie son premier loyer avec sa dernière paye d'enseignante, 86 $. Au jour 1, son école de danse compte déjà 52 inscriptions et un seul professeur, elle, au travail. Des styles émergents. Aussi danseuse au sein des ballets jazz contemporains, Louise Lapierre va faire de cette danse son pain et son beurre. Le ballet jazz est le hip-hop de l'époque et on se rue par centaines au studio de la rue Mont-Royal pour en apprendre les rudiments. Louise Lapierre est aux premières loges de cette tendance grâce à sa professeure invitée, Eva von Jensi, pionnière de la discipline. Elle va aussi à New York, berceau de cette danse emblématique des années 1970. Dans les années qui suivent, Louise Lapierre sera la papesse de la danse loisir. Pour plusieurs, son studio deviendra une deuxième maison, un antidote à la monotonie du quotidien par la rencontre d'une vibration énergisante. Sa mission pédagogique, Louise la résume ainsi. Créativité et plaisir. Le ballet jazz était le hip-hop de l'époque et on se ruait par centaines au studio de la rue Mont-Royal pour en apprendre les rudiments. Au fil des 50 dernières années, Louise Lapierre Danse est devenue synonyme de belles initiatives. Elle a proposé des cours parents-enfants, un programme de sport-études pendant 10 ans, et des spectacles récréatifs pour ses élèves et ses troupes. En périphérie de son école, Louise Lapierre a aussi figuré au générique de nombreuses émissions de variété comme danseuse ou chorégraphe. Aujourd'hui, alors que son studio accueille toujours quelques milliers de danseurs par an et que 50 employés sont bien formés pour en prendre soin, Louise Lapierre fait quelques pas en retrait, histoire de bien chorégraphier sa vie de conjointe, de mère et de grand-mère. Louise Lapierre danse en 5 mouvements. 1976. Création pour enfants et adolescents de programmes multidanses incluant 6 styles de danse dans le même cours. 1980. Louise Lapierre devient la professeure et la chorégraphe de René Simard. Le monde de la scène et de la télévision s'ouvre à elle. 2000. Le passage de 52 élèves à plus de 3000 par année nécessite des équipes stables et la diversification d'activités artistiques. Cours, stages, camps de jour, spectacles et programmes spéciaux. 2021. À plusieurs prix et honneurs s'ajoute le prix Ethel Bruno, soulignant sa contribution au développement de la danse au Québec. 2023. La célébration du 50e anniversaire se déroule dans le bonheur de la continuité grâce à la qualité de la relève. C'était Louise Lapierre, Pas à pas. Un texte de Joanne Mercier paru dans le magazine Virage, hiver 2024.
L'ébéniste des mots de Lee Valley, un texte de Denis Arcan, paru le 28 décembre 2023 dans la presse. Dans chaque entreprise se cache au moins un employé qui se distingue tant par son efficacité que par l'appui qu'il offre à ses collègues ou l'appréciation des clients. La presse vous présente Vincent Roy. Chignol, ciseaux à jambes de chien, vastringue, varlope, tarabisco, rabot à chanfrein nez japonais, trusquin à roulette millimétrique, voilà le quotidien de Vincent Roy. Il ne gagne pas sa vie en travaillant le bois, quoique c'est un de ses passe-temps, il sculpte un matériau autrement difficile, les mots. Vincent Roy, 63 ans, est depuis 2010 le principal artisan de l'adaptation française du site web et des catalogues de Lee Valley, une entreprise familiale d'Ottawa qui distribue, fabrique et parfois invente des outils et accessoires de haute qualité, notamment pour le travail du bois. L'entreprise est dirigée par le PDG Robin Lee. Sa femme, Lucie Robitaille, dirige le service à la clientèle. Quelques années avant l'ouverture du premier magasin Lee Valley au Québec, Mme Robitaille a défini le mandat de francisation de Lee Valley, confié à Francisation Interglobe, FIG, de Montréal, en 2010. C'était toute une affaire, note Mme Robitaille avec fierté. Vincent Roy a été le tout premier employé de l'équipe de francisation. Nous le connaissions. Il avait travaillé durant des années comme rédacteur à la revue Renault Bricolage. C'est un homme calme, consciencieux, qui a une écoute exceptionnelle et qui se souvient de tous les détails. Monsieur Roy et deux autres ex-employés de FIG travaillent maintenant pour Lee Valley. D'ailleurs, c'est l'ancien patron de Monsieur Roy chez FIG qui l'a suggéré à la presse. Nous avons fermé FIG en 2021, mais durant plus de 10 ans, mes associés et moi avons pu compter sur un homme d'exception, dit Mathieu Brisset-Desnaud. Il a été au centre d'une équipe de 10 terminologues et traducteurs qui a traduit tout le catalogue. Il a fait tout un job. Lee Valley est une quincaillerie très atypique et son catalogue d'outils a l'air d'une revue d'art. Son site est quasi encyclopédique. Les milliers d'outils et accessoires ayant au moins une courte description. Certains outils sont très beaux, très spécialisés, et le choix est vaste. Vous cherchez des mèches de toupie pour ouvrir les pièces d'un meuble? L'auteur de ces lignes en a trouvé 79 variétés. Il a arrêté de compter là. On y trouve des merveilles, comme le trusquin haut de gamme fait main à Saint-Roch-des-Aunais, en petite série par l'ébéniste François Cullen avec un bois rose d'Amérique du Sud. Ce bel objet sert à tracer une ligne parallèle à l'arête d'une pièce de bois. Avant 2010, les catalogues et le site de Lee Valley étaient en anglais seulement. Outre la quantité de matière à adapter, il y a eu des cas problèmes de terminologie, dit M. Roy, qui a fait des études en lettres françaises et suivi des cours de lutherie et d'ébénisterie. Au Québec, le monde des outils a un pied en Europe et l'autre dans la culture américaine. Les outils viennent surtout des États-Unis et, souvent, les termes français ne correspondent pas à la nature et l'usage de l'outil offert ici. De De nombreux termes oubliés ou jamais utilisés de ce côté-ci de l'Atlantique ont été trouvés dans de vieux dictionnaires français. Mais il a fallu adapter et inventer des termes respectant la logique technique de chaque objet et le génie de la langue française. Un long et coûteux travail de terminologie. L'austère auto-adjust toggle clamp est devenue la pétillante sauterelle autoréglable, un outil de serrage servant à immobiliser une pièce à percer ou à toupiller, tandis que l'indigeste bevel up jackrabbit plane est devenu le méliflu riflard à feuillure, un rabot long, mais pas aussi gros qu'une varlope. Le pivet log, nom obscur pour le non-initié, est devenu tournebille à éperon, qui indique mieux que cette espèce de harpon doté d'un crochet sert à déplacer des billes de bois. Certains termes, on le voit, sont très originaux et ont fait sensation quand le site français de Lee-Vallée a fait son chemin au Québec, après 2010, augmentant sa clientèle d'artisans, d'ébénistes et de bricoleurs passionnés. Un dénommé Pierre Foglia en a parlé deux fois dans la presse en 2014, s'émerveillant de la poésie quincaillère du catalogue de Lee-Vallée. Une douce musique et un rare hommage à notre langue comparativement au rugueux catalogue de Rona et autres Home Depot. Autre hommage d'un autre genre, Circuit, la revue de l'Ordre des terminologues, traducteurs et interprètes agréés du Québec, a demandé à M. Roy une étude de cas sur Lee-Vallée qui a été publiée en 2017. M. Roy reconnaît que son métier requiert de la créativité, mais il dit privilégier avant tout la rigueur. Je me répète souvent qu'on est lu par nos clients des gens qui connaissent mieux ça que nous. Il se répète aussi qu'il aime son métier et qu'il est chanceux de le pratiquer dans une entreprise où on est à cheval sur la qualité du français. On reçoit encore des courriels de clients qui se réjouissent de la beauté des mots français ou qui nous disent que le catalogue est sur leur table de chevet, dit M. Roy. Mais ça arrive moins souvent maintenant, comme si les gens tenaient désormais ça pour acquis. Voilà une pensée rassurante. À l'époque où on entend encore souvent au Québec des gens parler de drill, de grinder et de crowbar. Pour Noël, on leur souhaite de recevoir un catalogue Lee-Vallée et de se laisser tenter par un Guillaume à nez aplati, une herminette de sculpteur ou, pourquoi pas, une scie cloche diamantée pour ardoise. C'était l'ébéniste des mots de Lee-Vallée, un texte de Denis Arcan, paru le 28 décembre 2023 dans la presse.
Une plante issue de la médecine indienne traditionnelle à la rescousse. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 10 janvier 2024 dans la presse. Une plante utilisée depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle en Inde pourrait éventuellement mener au développement d'un premier traitement pour la sclérose latérale amyotrophique, démontrent des travaux réalisés à l'Université Laval. La professeure Chantelle Sefton et ses collègues ont ainsi constaté que la witaferine A, un extrait de la plante ashwagandha, entraîne une disparition des symptômes chez des souris modifiées génétiquement pour reproduire la SLA. Il y a une amélioration des fonctions motrices et des troubles cognitifs, a révélé en primeur à la presse canadienne la professeure Sefton, qui enseigne à la faculté de médecine de l'institution québécoise. La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig a été porté à l'attention du grand public par le célèbre défi du saut de glace il y a maintenant 10 ans. La maladie entraîne une atrophie des muscles qui sont sous le contrôle conscient d'une personne, comme ceux des bras et des jambes, mais aussi ceux du visage, du cou et de la langue. La SLA est causée par une perte de motoneurones supérieurs, situés dans le cerveau, et inférieurs, qui s'étendent de la moelle épinière aux muscles. Les chercheurs québécois ont découvert que l'apparition des premiers symptômes est précédée par des changements structurels dans les neurones supérieurs. Ces changements appelleraient en renfort des cellules immunitaires du système nerveux central, les microglies et les astrocytes. Bien qu'elles soient tout d'abord bénéfiques, la présence de ces cellules immunitaires devient toxique pour les neurones si elles se prolongent, puisqu'elles causent une diminution des connexions synaptiques entre les motoneurones du cerveau et de la moelle épinière. Une diminution des connexions synaptiques avec les muscles suit, et ces changements causent une atrophie et une perte des fonctions motrices. Les cellules immunitaires essaient de protéger les neurones, a expliqué la professeure Sefton. Mais quand elles sont activées trop longtemps, elles peuvent faire des dommages. L'équipe de la professeure Sefton a constaté que la witaférine A est en mesure de bloquer l'inflammation, ce qui permet une restauration des connexions synaptiques perdues. Quand on diminue l'activation des cellules immunitaires dans le système nerveux central, ça donne aux neurones l'occasion de se régénérer, a-t-elle résumé. L'efficacité de la witaférine A face à la SLA avait précédemment été démontrée par un autre chercheur de l'Université Laval, le professeur Jean-Pierre Julien. Les travaux de la professeure Sefton et de ses collègues ajoutent à ses connaissances en illustrant l'efficacité de la molécule face à un autre modèle de la maladie. Ça donne une raison de plus de croire que ça pourrait être efficace chez les humains, a-t-elle ajouté. L'ashwagandha est un arbuste à feuilles persistantes qui pousse en Asie et en Afrique. Des suppléments sont disponibles en vente libre sur le marché, mais les multiples vertus thérapeutiques qu'on prête à la plante, notamment pour combattre le stress et l'hypertension, n'ont jamais été démontrées scientifiquement. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue scientifique ACTA, Neuropathological Communication. C'était une plante issue de la médecine indienne traditionnelle à la rescousse. Un texte de Jean-Benoît Legault de La Presse canadienne, paru le 10 janvier 2024 dans La Presse.